Bienvenue au podcast Upika, le podcast de geeks de sport. Je suis un geek de sport, vous m'écoutez, vous êtes peut-être des geeks de sport. Puis cette semaine, on reçoit le geek parmi tous les geeks de sport, David Yecker. David, qui est un athlète assez de haut niveau, là, vraiment. Vous pouvez suivre sur sa page Instagram, vous allez voir qu'il fait des performances en course, en ultra, assez impressionnantes, mais qui est aussi fasciné par la science derrière le sport. On en a parlé souvent dans le podcast, on en a parlé avec Nicolas, le Duc Savard, de David, on en a parlé avec Antoine Jolicoeur-Desroches de David, fait que son nom est revenu souvent, puis là finalement on s'est écrit dans nos DM, puis il m'a dit « Hey PH, viens faire un test de lactate, puis après ça on en parle sur le podcast ». Un test de lactate, c'est quoi? Je vais vous en reparler un petit peu plus tard dans le podcast, mais finalement c'est ça qu'on a fait, fait que j'allais faire un test avec lui. Puis après ça, on a discuté de ça sur le podcast. C'était vraiment fascinant. Vous allez triper sur ce podcast-là, je suis sûr. Puis vous allez sans doute vouloir appliquer ces apprentissages-là dans votre pratique de sport. Un petit mot pour vous dire que Upika, on est back in stock après avoir été back order pendant à peu près 3 semaines lié à un problème avec les chaînes d'approvisionnement. Ben on est de retour avec un inventaire rempli. 3 saveurs de Upika Endurance, citron lime, punch aux fruits et la nouvelle saveur framboise bleue. On a eu du Upika Endurance Plus avec 5 mg de caféine qui est au melon d'eau. C'est 4 saveurs absolument incroyables. Un tout en un pour vos sports d'endurance. Puis c'est de retour en inventaire. Fait que sautez là-dessus. Utilisez le code UPIKAPOD10, UPIKAPOD10 pour 10% de rabais sur votre première commande. Allez-y, maintenant, c'est le temps de recommander, c'est le temps de commander pour une première fois, c'est votre première fois, parce que là, on a nos réserves bien remplies, puis on va essayer, en fait, je vais essayer qu'on se fasse pas repogner les culottes à terre avec un manque d'inventaire, mais ça fait partie des apprentissages d'une business, j'imagine, fait que deux parties aujourd'hui au podcast. Je vais juste commencer seul en vous décortiquant un petit peu plus c'est quoi le test que j'ai fait avec David, puis après ça, parce que je pense que c'est nécessaire pour mieux comprendre la conversation qui s'en vient après. Fait que c'est ça, sans plus attendre, bon podcast. OK, fait avant d'aller dans la conversation avec David, je veux vous expliquer c'est quoi un test de lactate. Quand je parle de lactate, c'est l'accumulation du lactate dans le sang. On va référer à ça en tant que fatigue musculaire, OK? Parce que je suis pas un expert qui peut vous expliquer réellement c'est quoi l'impact du lactate dans ton sang. Appelons ça fatigue musculaire. Quand je veux dire lactate, pensez à ça, OK? C'est pas... simplifions ça un petit peu. OK? Fait que le test de lactate, comment ça se passe, c'est qu'on est sur un tapis roulant puis on commence à courir à une vitesse X qui permet de... En fait, qui est une vitesse pendant laquelle on n'accumule pas de lactate ou de fatigue dans notre corps, de fatigue musculaire. Pour trouver cette vitesse-là de base, il faut... on prend nos temps qu'on a fait à certaines courses, tu sais, on peut le faire à paresse et erreur. Moi, c'était à peu près 5-15. Ensuite, fait que là, on se pique dans le doigt, puis on prend une goutte de notre sang pour calculer le taux de lactate dans le sang. Ensuite, à chaque 3 minutes, on augmente la vitesse du tapis de 1,2 km, puis on se repique dans le doigt où on reprend le sang qui continue à couler, puis on reprend un taux de lactate dans le sang. Fait que ça, ce que ça permet... Et puis, en faisant tout ça, on a aussi une strap de fréquence cardiaque qui va nous permettre de calculer notre fréquence cardiaque, évidemment, dans l'exercice. Fait que là, je vais mettre, pour ceux qui sont sur YouTube, je vais mettre ce graphique-là dans la vidéo. Si vous êtes en audio seulement, soit vous allez sur YouTube ou je vais essayer de l'expliquer le mieux possible. Fait que c'est un graphique où est-ce qu'il y a 3 paramètres. Le paramètre horizontal, donc horizontal, c'est ça, qui est celui en bas, c'est la vitesse. Donc, la vitesse qui augmente. Ensuite, à gauche, la barre à gauche, c'est le lactate et la barre à droite, c'est la fréquence cardiaque. Fait que là, on arrive avec 2 courbes. La première courbe, celle qui se traduit en ligne droite pratiquement, c'est la fréquence cardiaque selon la vitesse. Fait que la fréquence cardiaque, elle, elle augmente progressivement à la même vitesse pendant toute à chaque fois qu'on accélère. Donc, pendant l'effort au complet, le test qui a duré à peu près 21 minutes, les fréquences cardiaques, eux autres, qui ont juste progressivement augmenté, plus la vitesse augmentait. Ça, on peut s'y attendre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le lactate, lui, augmente de façon exponentielle. Donc, au début, sur les premiers paliers, le lactate augmente pratiquement pas. Donc, ça veut dire qu'on pourrait courir vraiment, vraiment longtemps à cette vitesse-là. Maintenant, on est capable de calculer notre premier seuil. Notre premier seuil, qui est le seuil d'aérobie. Ceux qui voient le graphique en ce moment, vous le voyez, c'est avant que le lactate commence à s'accumuler dans notre sang. Donc, tant que tu cours en dessous de cette vitesse-là, le lactate ne s'accumule pas dans ton sang. Mais à partir d'une certaine vitesse, là, il commence à s'accumuler. Donc là, on le voit, là, c'est ce qu'on appelle le seuil anaérobique, donc la deuxième petite ligne pointillée rouge. Ça, c'est le moment où est-ce que tu es capable d'évacuer le lactate à la même vitesse qu'il s'accumule. Donc, tant que tu restes en dessous du seuil anaérobique, il n'y a pas d'accumulation qui devient hors de contrôle. Parce que comme vous voyez, la courbe de lactate est exponentielle. Fait qu'une fois que tu traverses le seuil anaérobique, ben là, tu génères trop de lactate pour le taux que tu peux évacuer, puis c'est là que tu commences à vraiment avoir accumulé de la fatigue musculaire, puis arriver au point où est-ce que tu n'es plus capable de courir ou tu n'es plus capable de faire ta pratique de sport. Maintenant, je vais sortir les seuils. Qu'est-ce que moi, ça m'a donné? Donc, vous allez voir maintenant sur le tableau 2, ceux qui écoutent en ligne. Sinon, je vais vous le dire maintenant. Mon seuil aérobique est à 4,48 minutes par kilomètre. Donc, techniquement, en termes de vitesse, il faudrait que 4,48, si je veux rester dans la zone 1 qu'on appelle, vous travaillez ma zone aérobique, il faudrait que je reste plus lent que 4,48. Mais ça dépend tout le temps, tu sais, c'est quoi le terrain, tu vas-tu en montant, est-ce que tu as une bonne journée, est-ce que tu es fatigué. Fait que la donnée la plus convaincante pour être capable de savoir c'est quoi le seuil aérobique, c'est la fréquence cardiaque. Parce que le lactate, on s'entend que tu peux pas toujours le calculer, tu n'as pas un instrument pour calculer ton lactate tout le temps. Fait qu'on peut l'amener à la fréquence cardiaque, qui dans mon cas est 156 battements par minute. Fait que tant que je reste sous 156 battements par minute, je suis sous mon seuil aérobique et je suis dans la zone 1. Fait que j'accumule aucun lactate. Fait que quand on parle de jog, quand on parle d'entraînement, de récup, quand on parle de easy, techniquement, il ne faudrait jamais que je dépasse ça. Ensuite, le seuil anaérobique, qui est le moment où est-ce que, comme je disais tout à l'heure, le lactate s'accumule, mais que tu l'évacues à la même vitesse. Donc, il n'y a pas d'accumulation qui se stack, si on veut utiliser ce mot-là. Moi, il arrive à 178 battements par minute. Fait que tant que je ne dépasse pas ça, il n'y a pas de l'accumulation qui est irréparable. Puis ensuite, mon max aérobique, c'est 195. Mon max, pardon, de fréquence cardiaque, c'est 195 battements par minute. Puis à ce point-là, tu t'offres ça littéralement quelques secondes. Fait que ça, c'est la science derrière le truc. Et là, je suis conscient que ça peut paraître du stock, mais vous allez voir que dans la conversation avec David, on va vraiment décortiquer ça. Puis il nous parle de qu'est-ce que ça représente. Donc, je vais juste faire un petit recap rapidement avant de vous laisser dans la conversation. La zone 1, souvent, mettons qu'on prend un système à trois zones. La zone 1, c'est en dessous de votre seuil aérobique. La zone 2, c'est entre le seuil aérobique et le seuil anaérobique. Et la zone 3, c'est quand tu tombes dépasser ça. Puis là, c'est du travail dans le rouge. Avec cette idée-là, puis chaque seuil, chaque zone est propre à chacun. Mais avec cette idée-là, je vais vous laisser écouter la conversation avec David, puis ça va faire beaucoup plus de sens pour vous maintenant. Encore une fois, si vous m'écoutez sur YouTube, si vous m'écoutez en audio, prenez le temps d'aller voir ça si vous jamais ça vous tente sur YouTube tantôt pour voir les stats. Mais sinon, je vous encourage vraiment à faire un test comme ça parce que depuis que j'ai fait ce test-là, ça fait une semaine et demie, j'ai vraiment commencé à modifier drastiquement mon entraînement. Quand c'est relax, c'est relax. Puis quand je fais des intervalles où je fais plus d'intensité, je dépasse jamais mon seuil anaérobique. Comme ça, je m'assure de pouvoir faire plusieurs répétitions sans jamais passer l'espèce de seuil où est-ce que là, je casse pour de vrai. Ça change tout quand tu considères ça. Puis je vous le dis, c'est vraiment le fun. Puis David, il en fait des tests, si jamais ça vous intéresse. Mais bref, avec ces informations-là, je vous laisse à la conversation avec David Gacal. Salut, man.
Salut.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Yes. David, raconte aux gens, parce que là, je vais faire une petite intro avant le podcast, là, mais dis aux gens qu'est-ce que tu fais mettons, dans la vie, là, parce que j'aurais moins bien le décrire que toi, sûrement, là, tu sais.
Ouais, ben en fait, mon emploi en ce moment, dans le fond, je suis conseiller en recherche et innovation à l'Institut national du sport.
Ouais.
Donc, on peut dire que je suis un scientifique du sport.
Ouais.
Donc, si on résume rapidement mon travail, c'est d'aider les fédérations sportives québécoises à mettre plus d'athlètes québécois sur les équipes nationales.
Mm-hmm.
Fait que c'est vraiment de les accompagner dans l'utilisation de technologies, dans, disons, utiliser la science pour qu'on ait plus d'athlètes qui nous représentent au niveau international.
Puis, t'es probablement, tu sais, là... Ça fait plusieurs podcasts sur Pika qu'on fait, puis on parle de toi souvent. Puis tu reviens souvent comme étant le geek de sport par excellence. Puis ça tombe bien parce que le podcast, c'est un podcast pour les geeks de sport. Puis, t'as-tu toujours été aussi geek que ça sur la science, sur les statistiques, sur l'optimisation? Ça a-tu fait partie de ta vie tout le temps ou t'as amené eu un déclic, mettons?
Ben, tu sais, moi, je pense, en fait, j'ai d'abord fait un bac en agronomie, en fait.
Okay.
Puis pendant que je faisais un stage en recherche agronomique, j'ai participé à une étude d'Éric Goulet à l'Université de Sherbrooke sur la performance, l'hydratation, demi-marathon, etc.
T'as participé en tant que sujet.
En tant que sujet. Ouais, exact.
Puis là, j'ai quand même fait... Puis tu faisais du sport, là.
Je faisais du sport, mais tu sais... course à pied, je commençais le triathlon, je pense, à ce moment-là. Puis c'était vraiment, tu sais, un intérêt, mais je n'étais pas geek, là, tu sais, c'était un peu comme tout le monde, là, tu suis un plan que quelqu'un sur Internet ou un plan qu'une kinésiologue m'a fait, rien de super avancé. Puis là, j'ai comme réalisé, OK, là, la recherche, tu sais, ce que je fais en agronomie, ben je pourrais le faire aussi en performance sportive, tu sais.
Ouais.
C'était un peu le premier déclic, mais j'avais quand même terminé, tu sais, mon bac, mais c'était comme un peu le premier contact. Et après ça, finalement, j'ai décidé de changer mon orientation d'études, puis vraiment aller faire des études en kinésiologie, faire une maîtrise que je suis allé faire à Lausanne. Puis c'est vraiment... moi, je pense que c'est vraiment là. C'est vraiment quand j'étais à l'université en Suisse, à Lausanne, faire une maîtrise avec Grégoire Millet, qui fait de la recherche sur l'ultra-trail. Puis c'est vraiment là, je pense, que j'ai eu un peu la piqûre pour tous les petits... on avait un cours, je pense, le titre du cours, je me rappelle encore tellement que c'était cool, là, c'était « Pratique innovante en entraînement et réentraînement ». Tu sais, c'était vraiment quand... OK, c'est quoi, là, l'espèce de... les petits détails, là, tu sais... Je sais pas, neurostimulation, tu sais, des affaires, plein de trucs intéressants. Puis je pense que c'est là que j'ai vraiment eu comme l'intérêt pour ça. Puis à force de faire des témoins, je fais des ultras, puis à un moment donné, tu t'intéresses vraiment à la physiologie, puis un peu plus à qu'est-ce qui se passe pendant ces efforts-là. Puis c'est ça qui m'amène. Tu sais, je suis entraîneur aussi depuis 2016. Donc depuis 2016, j'accompagne les athlètes aussi, surtout en ultra. Fait que tu sais, j'ai quand même un... Tu as ton expérience, tu as ce que tu lis, puis au final, ça reste un art, le coaching, mais c'est un art qui peut être basé sur la science. Puis moi, c'est vraiment ça que j'essaie d'amener, de ne pas m'inspirer trop de ce que les autres font. T'sais. Parce que j'ai pas lu les livres de Jason Koop, de Guillaume Millet, puis on dirait que je me dis, là, peut-être que maintenant, ma philosophie d'entraînement est assez solide pour que je puisse commencer à regarder ailleurs, puis juste comparer.
Mais tu voulais pas te faire influencer, dans le fond. Tu voulais arriver avec une tête un peu fraîche, puis des données scientifiques, puis baser ta préparation, puis tes plans d'entraînement, ton planning sur la science et non sur ce que tu avais lu d'autres coachs.
Puis t'es sur la science, mais c'est toujours ton interprétation de la science.
Mm-hmm.
Parce que des fois, tu sais, oui, une étude conclut ça, mais une autre conclut l'inverse. Puis là, c'est à toi de faire le travail. Puis justement, c'est un peu ça, ma job aussi à l'Institut, de vraiment voir un peu, OK, mais tu sais, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse, puis comment qu'on se fait une tête avec ça. Parce que je pense que le coaching, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui refont les mêmes choses. Souvent, c'est des anciens athlètes qui refont faire les mêmes choses. Puis tu sais, moi, je me dis tout le temps, si tu fais la même chose que les autres, ben, tu seras quand même meilleur que d'autres. Mm-hmm. Tu es à moins, justement, d'être le spécimen génétique qui répond bien à ça, mais en même temps, les chances que ce soit toi sont assez minimes. Fait que moi, je me dis tout le temps, si je base vraiment mon intervention sur la science, puis des fois, ça amène des trucs que tu fais comme, OK, je pense que personne d'autre fait ça, ou les gens qui le font pas pour les mêmes raisons que moi, mais au final, je pense que ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, je dis ça puis comme si c'était vraiment high-tech, mais en même temps, le final, l'entraînement pour un ultra, c'est beaucoup d'entraînement en endurance, en zone 2, easy, puis tu sais, c'est pas si compliqué ça non plus. Là.
Ouais. Ouais, mais il y a quand même, tu sais, chaque petit détail peut t'amener un mini pourcentage de gain, mais accumuler ces pourcentages de gains-là, ça devient quand même considérable.
Ouais.
Fait que c'est important, je pense, au moins se poser la question, puis il y a aussi l'aspect de pas devenir fou avec ça. Ouais, ça va être difficile, mettons, quand tu tombes dedans, puis là, tu sais, toi, t'as-tu de la misère des fois à juste laisser aller, faire comme, hey, là, je vais aller, mettons, jogger juste pour le fun, là, sans penser à mon heart rate, à mon lactate, à mes zones, puis à ces affaires-là.
Ben, tu sais, moi, j'aime ça dire que j'accorde beaucoup d'importance à ma pratique sportive, puis à l'ultra, mais je me prends pas au sérieux, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est important, mais c'est pas sérieux. Fait que, tu sais, on est quand même là pour se faire du fun, puis au final, des fois, c'est même un peu presque. Pas que je troll le monde, là, mais tu sais, je mets tout le temps un nasal strip, là, tu sais, pour ouvrir le nez, et tout. Est-ce que ça a un bénéfice réel?
Ouais.
Ben, tu sais. Peut-être pas, mais ça peut pas nuire. Il y a plein d'affaires comme ça. On dit les petits pourcentages. Il y a plein de choses que la littérature scientifique te dit, ça n'a pas d'effet bénéfique. Mais tu regardes les stats, t'es comme, OK, mais tu sais, statistiquement, c'est pas significatif. Mais tu sais, c'est comme, je sais pas, 0.5% mieux pareil. Les chiffres, là, même si c'est pas, statistiquement, c'est pas significatif, tu dis, si ça peut pas nuire.
C'est
comme
ça.
L'exemple justement du nose strip, que tu dis, quand je le mets, je trouve que quand je respire, je me sens mieux. Puis oui, en courant, tu respires plus par la bouche, fait que sûrement que l'effet est minime. Mm-hmm. Mais en même temps, le feeling est bon, fait que let's go, Il y a plein de détails comme ça que, au final, l'important, même, des fois, c'est l'inverse. Tu prends les bas de compression. Si je lis la science, sur un ultra, ça fait du sens de mettre des bas de compression. Mais c'est lettre.
Ouais.
Fait que je la mettrai pas. Parce que
c'est trop marginal, mettons.
Non, mais tu te pointes à la dessin de départ. Puis l'important aussi, puis des fois, je ris un peu avec ça, avec le swag puis le style. Mais en même temps, c'est vrai, là, être au départ puis avoir confiance à sa préparation, confiance à son plan, mais aussi confiance en l'équipement que tu as choisi, puis confiance que t'as l'air cool. Là,
ouais. Mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'on parlait juste avant ça. On parlait juste avant de commencer à enregistrer, je te disais que je me laissais. Même quand je nageais, je me laissais la moustache avec un triangle en dessous de la lèvre inférieure. Puis à chaque compétition importante, tu me demandais, y a-tu de la drag pour ça? Puis la réponse, c'est oui, y a de la drag. Sauf que moi, quand je suis rasé, ça fesse au bec, partout dans ma face, je suis pas en confiance.
Ouais.
Je trouve que ça me fait pas bien, puis je suis comme un peu anxieux.
T'es pas toi-même aussi.
Je suis anxieux de ce que le monde pense de moi quand j'ai ça, tandis que quand je me laissais la moustache puis le triangle, j'étais comme au moins, même si je rasais les joues, tu sais, puis tout, ce que je fais pas d'habitude, je trouvais que j'arrivais derrière le bloc, puis j'étais plus confiant avant mes courses. Une mini-affaire, là. Puis c'est probablement que c'est négatif en termes d'impact, c'est marginal, on s'entend, mais ça va être quand même, tu nages plus lentement sûrement avec une moustache puis un triangle, tu sais.
C'est ça, puis c'est même, comme on disait avant, moi je me rase les jambes, puis tout, puis l'effet doit être minime, mais aussi, des fois, c'est même la. Tu sais, je sais pas, tu te rases les jambes, t'as l'air, les muscles plus découpés, tu sais.
Ouais.
Juste le look, t'es comme, OK, il me semble fit, tu sais.
Ouais,
t'es pas plus fit que la veille, là, tu sais, c'est la même affaire, là, tu sais.
Ouais. Puis est-ce que le. Parce que moi, quand Nicolas, qui était venu ici, m'avait parlé de toi, j'avais commencé à te suivre sur Instagram, puis au QMT 50, c'est mon ami JP qui a gagné le QMT, Jean-Philippe Thibodeau, puis toi, je te suivais, fait que je t'ai vu, puis là, j'ai vu le crop top. Mm-hmm. Est-ce que le crop top, c'était une décision stylée ou c'était une décision de thermorégulation?
Mais ça avait commencé, je pense que justement, c'est une course où il faisait chaud, puis je voulais juste, j'avais une veste d'hydratation. Puis je m'étais dit, je veux pas que ça frotte sur ma peau.
Ouais.
Fait que j'avais coupé comme un tank top pour que ça fitte parfaitement dessus, puis c'était comme, OK, c'était ça.
Puis après, tu voulais pas courir, mettons, c'est ça, tu voulais pas être en chest, là, en dessous.
Je voulais pas être en chest parce que ça allait frotter, puis je voulais pas avoir du vêtement plus que ce que ça me prenait pour que ça frotte, tu sais.
Ouais.
Parce qu'en fait, j'ai déjà fait des courses de trail en chest aussi.
Ouais.
Je pense que le crop top, c'est un peu l'idée que maintenant, vu que je mets tout le temps une sangle de fréquence cardiaque, courir en chest avec juste une strap de fréquence cardiaque, c'est bizarre un peu.
Mm-hmm.
Fait que tu mets un top par-dessus, puis là, qu'il soit coupé, tu sais, si tu thermorégulation, je pense que c'est plus une espèce de brand. Là, t'es demandé, tu fais ça une fois, deux fois, puis tu recommences. C'est comme ton espèce de style, je sais pas, là, porte-bonheur. Là, mais
ouais.
C'est pas. Je cours pas non plus tout le temps avec ça. Là.
Ouais. Mais en tout cas, j'avais trouvé le style vraiment le fun.
Ouais, surtout que je sais pas, c'était quand. Des fois, t'es un peu fat quand même. Ouais. T'as l'impression, c'est fois, t'es comme, finalement, c'était peut-être pas le.
Peut-être pas du mec.
J'aurais pas dû faire ça dans le temps.
J'étais pas lean comme j'aurais
voulu. C'est bon, je pense, pour le sport, des fois, de pas avoir juste la tête comme découpée au couteau.
Ben oui, ben
là,
oui.
Ouais,
pis l'ultra, c'est. Ben l'ultra, pis tu sais, les courses de vraiment endurance comme ça, c'est rare que tu vois. Un esti de gars shreddé, là, tu sais.
C'est vrai.
Tu sais, c'est vraiment. Moi, je faisais du sprint en natation, puis là, le monde est jacked, là. Tu sais, ouais. Le monde, ils ont découpé, mais quand tu montais, là, du monde qui faisait du 1500, même du monde qui faisait du 1500 mètres en piscine, des épreuves de 15 minutes en montant, c'est rare que tu vois le monde vraiment fit, là.
Mais en même temps, tu sais.
Ils sont vraiment fit, mais genre découpés.
Ouais, mettons, c'est là, ça, t'sais. C'est que ça paraît pas tant que ça non plus, là, tu sais, même si on a. Pourcentage de gars quand même assez bas souvent. Ouais. Là, je pense qu'on n'est pas des culturistes non plus. Là,
non, c'est ça, c'est ça. Ouais. hier, je suis venu faire un test de lactate avec toi à la boutique Endurance à Montréal. Puis moi, c'est la première fois que je faisais un test vraiment avec à prendre mon lactate, me piquer le doigt, puis prendre mon lactate. Là. Les seuls genres de tests d'endurance comme ça que j'avais fait, je te le disais hier, c'était des tests en piscine où est-ce que tu te rends jusqu'à échec, mettons, pour voir jusqu'où tu peux te rendre. Puis c'est pas mal moins précis en termes de statistiques parce que t'as pas de pulsation cardiaque, t'as juste où tu te rends, dans le fond, là, tu sais. Puis... toi, depuis quand est-ce que tu t'intéresses vraiment au lactate et à ce genre de test-là?
Ben en fait, c'est ça. C'est pendant mon stage, pendant ma maîtrise, en fait, on avait un stage. Là. C'était le fun. C'était pas une maîtrise de recherche entièrement. Là. C'était un peu un parcours un peu anti-typico type recherche au Québec. Là. Fait qu'on avait quand même un stage à faire, je sais plus, deux mois au moins, là, en entreprise. Puis moi, j'avais été faire ça dans une clinique, justement, où ils faisaient des tests comme ça avec des athlètes. Puis c'est là que j'ai vu, OK, tu sais, c'est pendant deux mois, j'ai fait, ben, pas que ça, mais j'ai fait beaucoup de tests de lactate. Puis tu vois un peu l'intérêt de ça.
Mm-hmm.
Puis je pense que c'est quelques années après, peut-être trois ans après, que j'ai décidé de m'acheter mon propre équipement pour offrir un peu ce service-là. Fait que je pense que c'était un peu juste avant la COVID. Là, fait qu'au final, les premières années, t'es comme shit, j'ai acheté comme 400 piastres de bandelettes pour faire des tests, puis je peux pas en faire. Là.
Mm-hmm.
Mais là, ça fait quand même quelques années que je fais ça. Puis tu sais, c'est vraiment. L'idée, c'est d'un peu de mettre. Tu sais, c'est pas de devenir non plus fou avec les données, mais c'est un peu. Tu sais, on dit souvent au monde, tu sais, sur un ultra, tu sais, pas trop vite, puis c'est important de jogger lentement, OK, mais c'est quoi ça, pas trop vite, puis c'est quoi ça, être lent, tu sais? Ah, faut que tu sois capable de tenir une conversation. Ben.
Mais parce que c'est ça, c'est vraiment un bon point, ce que tu dis là, puis excuse-moi de te couper. Parce que moi, là, mettons, j'ai fait 4 marathons dans ma vie, puis à chaque fois, j'améliorais un petit peu la façon avec laquelle je me préparais. T'sais, la première fois, je me suis dit, je veux faire un marathon, je courais par moi-même de temps en temps, là, 4 à 5 fois par semaine. L'autre fois d'après, mais là, c'est OK, je vais prendre un programme en ligne. L'autre fois d'après, c'est OK, là, je vais prendre un programme plus spécifique au temps que je veux faire. Puis là, après ça, c'est OK, je vais me faire un programme spécifique. Puis à chaque fois, mettons, quand je m'intéressais à comme OK, c'est quoi un training de marathon, mettons, le monde parle de zone, le monde parle de jog, le monde parle de tempo, le monde parle d'intervalle. Puis à chaque fois, il y a comme une espèce de règle. C'est comme, OK, prends 220 moins ton âge, puis ça, c'est ta fréquence cardiaque maximale. Puis là, pour aller en jog, il faut que tu sois à 70% de ça. Puis là, moi, dans ma tête, je me disais, connaissant, mettons, comment la physiologie est différente, puis la physionomie des gens est différente, je me disais, c'est sûr que c'est pas universel. C'est sûr que ça change. Fait que, continue ce que tu dis dans le sens, là, ça permet de mettre un facteur, un nombre spécifique à toi, mettons.
Puis même, ça va plus loin que... Parce que tu peux aussi faire un test de lactate puis déterminer des zones avec des valeurs arbitraires puis ça revient au même, là, mm-hmm. presque. Là, ouais. Je pense que le défaut d'aller avec des valeurs maximales, que ça, ta VMA ou ta fréquence cardiaque max, c'est que même si tu as la vraie valeur max, ben, le pourcentage est différent d'une personne à l'autre.
Ouais, c'est ça.
Mais après ça, tu peux quand même aussi, avec le lactate, dire « Ah, ben ça va être 2 millimoles ton premier seuil puis 4 millimoles ton deuxième, puis tu reviens au même problème que tu as ouais. des valeurs arbitraires. » mm-hmm. Fait qu'il y a différentes méthodes pour le faire. Puis moi, la mienne que j'utilise, c'est celle que moi, je juge qui est la meilleure. T'sais. Mais après, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir de savoir c'est quoi, tu sais, jusqu'à quelle intensité ton lactate, il est vraiment sur ta ligne de base puis il augmente pas. Mm-hmm. Ça, c'est théoriquement la vitesse à laquelle tu peux courir, tu devrais courir en fait tes jogs puis vraiment ton endurance de base. Puis après ça, tu as ton deuxième seuil où là, ben, tu sais, à partir de cette intensité-là, ben, idéalement, tu fais tes intervalles au-dessus de ça, mais tu sais aussi que c'est un peu l'espèce de limite à partir de laquelle ça devient plus difficile, puis à partir de laquelle tu brûles pratiquement que du sucre. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, en ultra. C'est, je pense, à la fois. Dans le fond, quand tu fais un test de lactate, tu as vraiment tes deux seuils, le seuil aérobie puis anaérobie. Puis le seuil aérobie est vraiment pratique pour l'entraînement, pour te dire, OK, ça, c'est la vitesse, disons, l'intensité maximale à laquelle je devrais faire la plupart de mon volume.
80 à 85% de ton volume. Exactement. Mettons, selon ton ouais. approche. Là.
Exact, ouais. ouais. Puis après ça, puis même, tu sais, ça, des fois.
Puis c'est ça, là, mettons, juste pour prendre l'exemple de mon test, mm-hmm. parce qu'on l'a ouais. fait ensemble puis on l'a vu ensemble. Cette stat-là était à un pace de 4,53, mettons, la ligne de mon premier mmh. seuil.
Ouais.
C'est-à-dire que si je cours plus vite que 4,53, je dépasse ce seuil-là.
Ouais.
Puis ça m'arrive vraiment souvent dans mmh. un jog de courir plus vite que ça. Tu sais.
Ouais.
Puis là, en termes de pulsation, il y a aussi la mmh. fréquence cardiaque qui est liée à ça. Là.
Ouais.
Mais hier, on dirait qu'en voyant ça, j'ai fait « OK, non, genre, c'est Chris, c'est... » C'est vrai, je cours plus vite pas mal que ça.
Puis c'est pas en courant t'sais, à 4,40 du kilo que 4,40 va devenir vraiment facile puis que c'est ça qui va être, que ton seuil va baisser à ça. Là. C'est vraiment ouais. l'inverse. C'est-à-dire, en joguant à plus lentement que 4,50 du kilo, ben c'est là qu'à un moment donné, tu vas être rendu plus efficace puis que tu vas pousser ton seuil.
C'est là que tu vas pousser ton seuil.
Tu sais qu'à 4,40, 4,30, ça va être rendu aussi de l'endurance puis ton lactate va être le même que pour les autres intensités. Là. Fait que mm-hmm. je pense que c'est... T'sais, c'est vraiment intéressant parce que d'y aller vraiment au feeling ou d'y aller « Ah, je peux parler ou pas », il
ouais.
y a des limites à ça. Là. Puis c'est facile, je pense, quand tu n'as pas des trucs précis de se dire « Ah non, c'est facile ».
Ouais.
Mais tu le vois assez vite là, quand tu coaches quelqu'un. T'sais, si tes longues sorties sont plus lentes que tes jogs, ben c'est parce que ouais. l'alimentation, là, mais généralement, c'est parce que tu jogs un peu trop vite. Là,
ouais.
Ça devrait pas être différent d'aller faire, tu vas faire un 20 kg en endurance, ça devrait pas être plus lent que ta sortie de 30 minutes. Là,
mm-hmm. Ouais. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant aussi hier dans le test qu'on a fait, c'est que chaque taux de lactate est lié à une fréquence cardiaque. Puis mm-hmm. moi, je trouve que, évidemment, quand t'as pas tout ton setup pour mesurer ton lactate, c'est vraiment plus facile d'avoir une strap et checker ouais. ta fréquence cardiaque, tu sais. Fait que de baser sur ta fréquence cardiaque, c'est vraiment plus facile. Puis tu peux le faire chez vous. Là.
Ouais, puis c'est quand même assez... tu sais, c'est même plus robuste que le pace. Parce que le pace, là, si tu coupes en ouais. des heures, là, ça se peut qu'à un moment donné, tu as une dérive puis tout. Puis c'est plus vrai que t'es à 5 du kilo, ton lactate est stable. Là. Mm-hmm. Mais ta fréquence cardiaque de, je vais dire 153, là, je me souviens plus c'était quoi la valeur. Là, mais
ouais, de quoi de même.
Quelque chose comme ça, là, dans les 150, là, ça devrait rester la même à peu près. Là. Puis c'est ça aussi, des fois, je pense, sur les ultras qu'on... T'es souvent sur une course sur route, ben, tu maintiens le même pace, puis ta fréquence cardiaque, elle dérive.
Ouais.
Sur un ultra, tu maintiens souvent la même intensité, fait qu'une fréquence cardiaque est plus stable, puis c'est ta vitesse qui va ralentir plus ou moins selon ta préparation musculaire, ta préparation physique, tout ça.
Mm-hmm.
Fait que moi, pour l'ultra, c'est vraiment la fréquence cardiaque qui m'intéresse le plus, puis encore, t'es plus récemment, là, t'es, je pense qu'avec Québec Mega Trail, où c'est très technique, c'est là que tu te rends compte que le pace, même si tu as une formule sur ta montre qui le met en équivalent plat, ben le pace, il vaut plus rien dans Mr. Chibo.
Mm-hmm.
C'est tellement technique que tu peux pas te fier à ça. Fait que là, c'est rendu là que la fréquence cardiaque, ben, tu sais c'est quoi tes limites. Puis c'est ça qui fait qu'une fois que tu as confiance en ça, ça fait que t'es Québec Mega Trail, j'étais, je pense, 26e au premier ravito. C'est quand même 30 minutes dans la course.
Ouais.
J'étais 26e, puis je finis 3e.
Ouais.
Puis t'es, ma course était relativement facile. Ma préparation musculaire n'était pas au top, fait que musculairement, ça a été rough sa fin, mais ça, c'est. Tu sais quand tu te prépares que t'es pas tout à fait
ouais,
au point
ouais.
non plus. Là. Mais je pense que d'un point de vue physiologique, j'ai pas eu de bas, j'ai pas eu vraiment de haut.
À cause que t'as respecté ouais, ta fréquence cardiaque. Puis qu'est-ce que ça dit, admettons, pour des triathlètes dans le changement de sport? Est-ce que ça a un impact majeur sur la fréquence cardiaque? Parce qu'entre le vélo et la course, mettons, c'est sûr ouais, que.
idéalement, tu fais un test dans les deux. Là.
Ouais, c'est ça. Hein?
Tu sais, moi, je sais que pour avoir fait des tests en vélo aussi, je te dirais que mes seuils, c'est peut-être 5 battements plus bas.
OK.
Puis, à peu près, là. Puis, je pense que c'est vraiment... Ça peut changer d'une personne à l'autre. Là. Fait que je te dirais que à ce niveau-là, c'est peut-être intéressant pour un trader de faire carrément les deux. Mais après, tu peux aussi choisir, OK, je fais mes ondes avec un test de lactate pour, mettons, la course à pied. Puis en vélo, je fais un test terrain 20 minutes. Tu peux... Il y a d'autres façons de trouver ton seuil que juste faire un test de lactate. Mm-hmm. C'est juste que je trouve que c'est la méthode la plus reproductible. Parce que là, si dans au printemps, par exemple, tu fais un marathon, tu veux revenir à la boutique, on fait un test.
La même chose.
Même tapis, même pente, même protocole. Puis après ça, on voit c'est quoi la progression puis qu'est-ce qui est réaliste d'essayer de maintenir sur un marathon ou pas.
Ouais.
Fait que ça, c'est quand même le fun. Alors qu'un test de 20 minutes ou un test de 5 kilos en course à pied, ben, t'sais, tu sais, oui, c'est reproductible, mais faut que tu gères ton allure comme du monde. Ouais, fait qu'il y a quand même un effet que je suis parti trop fort, je sais pas. T'sais. Alors que là, ben, tu suis la vitesse du tapis.
Ouais. T'sais. Puis... Le wattage en vélo par rapport, est-ce que ça devient aussi un chiffre que tu peux sur lequel tu peux te fier pour ton niveau de lactate dans le fond?
Ben c'est ça, dans le fond, au lieu de faire comme on a fait hier avec d'avoir la vitesse ou le pace, ben ça devient
c'est le wattage.
C'est le wattage, quoi.
C'est ça, okay,
même
okay.
principe.
Ouais, ouais, c'est ça, parce que dans le fond, exact, en vélo, il n'y a pas vraiment de pace.
Mm-hmm.
Là.
Ouais.
Ouais. Fait que ça devient. En tout cas, moi, mettons, avec les résultats hier, on dirait que ça change complètement ma perspective pour mon prochain ultra, tu sais. Mm-hmm. De faire, hey, là, ben, quand je regarde, on a regardé mes données du Arikana, tu sais, que j'ai arrêté à 61 mm-hmm. kilos. Puis j'avais quand même 17% de ma course qui était passée dans zone 4, là, ouais. dépassé mon deuxième seuil.
Ouais.
Puis, ben, tu sais, la zone 4 selon ma montre, là, mm-hmm. mais qui était plus haut que mon deuxième seuil. Puis c'est sûr que ça a joué un rôle énorme, là.
Puis c'est ça, puis si tu regardes mon Québec Mega Trail, c'est une course plus courte, là, ouais. en plus, fait que théoriquement, l'intensité devrait être encore plus élevée.
Ouais.
Je pense que j'ai passé une ou deux minutes en zone 4. Là.
C'est ça.
Puis c'était vraiment au début de la course, là, quand que...
Parce qu'à quel point est-ce que ça coûte cher, passer du temps? Tu sais, mettons, si tu passes un segment de 5 minutes en zone 4, là, est-ce que vraiment... Puis tu reviens tout de suite après, mettons, en dessous de ton seuil. Est-ce que vraiment ça a un large impact sur plus tard dans la course?
Ben moi, je te dirais... Pas tellement si tu ralentis assez pour être vraiment largement en dessous après.
Mm-hmm.
Mais c'est que souvent, ce qui arrive, c'est que tu dépasses ton threshold, puis après ça, tu redescends à ton seuil. Fait que là, l'espèce d'accumulation, puis tu sais, là, il y en a qui vont dire, ah, c'est pas l'acide lactique, puis tout, mais tu sais, moi, j'aime ça parler d'accumulation de fatigue.
Mm-hmm.
Tu sais, on va pas dire c'est quoi exactement, si tu l'acide, si tu le lactate, si tu le phosphate, tu sais, c'est quoi. On va dire la fatigue.
Ouais.
L'accumulation de fatigue, tu vas avoir plus de difficultés, je pense, à la faire baisser. Fait que ça peut quand même t'affecter vraiment longtemps versus accélérer juste avant un ravito, sachant que tu vas t'arrêter pendant 30 secondes. Ben là, c'est peut-être différent un peu. Fait
ouais, je comprends.
C'est pas non plus genre si tu passes 2 minutes over, ben t'es dead. Là.
Ouais.
Mais il y a quand même, il y a vraiment un intérêt, je pense, à rester en bas, puis même
toujours, ouais.
quand même une petite coche en dessous. Là, je pense c'est comme ta limite. C'est pas si ton threshold c'est 175, c'est pas je vais racer à 174 toute la race. C'est-à-dire, ça, c'est le maximum que je vais me permettre. Puis après ça, selon la distance puis ton expérience, tu peux un peu ajuster à mm-hmm. quel point tu vas être en dessous, puis à quel point tu vas te permettre dans les montées d'aller un peu plus proche. Là,
ouais. C'est vraiment c'est fascinant pour vrai. Puis d'avoir, de le visualiser. T'sais, là, mettons, j'ai des cap clair dans ma tête maintenant. Mmh. Je sais exactement c'est quoi ma zone 1, c'est quoi ma zone 2, c'est quoi mon deuxième seuil. Puis tout le monde qui est somme toute sérieux en sport d'endurance, honnêtement, je recommanderais de faire ce genre de test-là parce que c'est... On dirait que là, je le vois vraiment plus clairement. Là, tu sais.
Ouais. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que t'es, là, les fréquences cardiaques, même quelqu'un qui est débutant, il s'améliore beaucoup, la fréquence cardiaque, elle va quand même toffer longtemps dans le temps. Là. Fait que si ton seuil, c'est 150 puis 175, ben dans 3 mois, ça se peut encore que ce soit 150 puis 175, mais que ta vitesse soit 30 secondes plus rapide pour les deux. Là,
mm-hmm.
Fait que des fois, tu n'as pas besoin non plus de faire un test hyper souvent, même quand tu progresses vite.
Ouais, ouais.
Fait que c'est quand même le fun. Puis après, c'est pas la... T'sais, parce que des fois, les gens, quand que je parle de ça, ils me disent « Ah, mais moi, je suis pas un élite, je suis pas... » Mais en même temps, justement, les élites, là, quand on regarde leur valeur, là, ils ont tous des premiers seuils tellement élevés, ils peuvent pas jogger trop vite. Là.
Ouais.
Tu sais, c'est comme genre des machines aérobiques.
Ouais.
Puis après ça, le deuxième seuil, ils font assez de compétition pour... Ils savent, là. Je veux dire, d'après les temps, sur 5-10 km, tu sais c'est quoi son deuxième seuil aussi. Là.
Ouais,
fait que
c'est
moins...
Ça.
Je dirais que c'est beaucoup plus pertinent, tu sais, pour les gens qui ont peut-être moins d'expérience puis moins de chrono, tu sais, officiel, puis mm-hmm. sur la route, là, par exemple.
Puis il y a beaucoup de monde aussi, puis là, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui débutent, mettons, en course à pied, là, tu sais, ou en natation, ou en vélo, tu sais, peu importe, puis que une des difficultés qu'ils ont, c'est que trouve ça tough, man. Tu sais, genre, aller courir, trouve ça tough. Les, mm-hmm. les pulsations montent à côté. Mais la réalité, quand on regarde un test comme ça, c'est que si tu cours à 6,30 du kilo ou que tu cours à 5 du kilo, il n'y a pas vraiment de différence. Ben, c'est du temps sur tes pieds ouais. dans zone 1.
Surtout, je pense, pour le trail, tu sais, puis le... T'sais, c'est justement ça, l'idée, c'est s'entraîner intelligemment et non pas dur. Là, mm-hmm. Si c'est tout le temps tough quand tu vas courir, ben c'est là que tu développes pas les bonnes choses puis tu te blesses aussi. Là.
Ouais.
Ça, c'est ce qui est intéressant aussi dans la littérature scientifique, tout ce qui est blessure en course à pied. Souvent, ils comparent par rapport à la vitesse. Puis là, tu te rends compte, ah ben les gens qui courent plus vite, ils se blessent pas plus.
Mm-hmm.
Mais c'est parce qu'ils courent pas nécessaire, ils courent plus vite que les autres, mais pas nécessairement trop vite par rapport à leur
c'est
seuil.
Ouais.
Fait que moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait aussi qu'on amène dans la recherche. C'est un peu des pour les blessures, entre autres, là, de dire ben c'est peut-être une question aussi que les gens sont au-dessus de leur premier seuil. Puis il y a quand même des théories qui disent que tant que tu es en dessous de ton premier seuil, ben c'est pas vraiment un stress. Là, c'est quand même quand on va prendre une marche.
Ouais,
c'est vraiment
ça,
relax. Puis ça, tu peux en faire beaucoup. Fait que là, tu peux faire plus de courses, plus de volume. Puis au final, ben tu deviens plus fort. Puis c'est là que tu progresses vraiment. Là, fait que courir, c'est facile. Puis même à un certain point, je te dirais, même sur les intervalles, je pense que selon les séances que tu fais, à un certain point, tu peux arriver à des séances qui sont relativement faciles. T'sais.
Ouais.
C'est beaucoup de volume à la bonne intensité, mais des fois, la perception d'effort, je peux faire une séance t'es énorme, à mon avis, super bénéfique, puis à la fin, je suis pas complètement fini. Là,
ouais. Ouais. Puis inversement, des fois, tu peux faire des séances qui sont supposées être relaxes, puis être explosées parce que tu overpaces là, pendant trop longtemps. Là,
exact.
Depuis que je fais de la course, puis que je m'intéresse, tu sais, parce que je m'intéresse plus à, mettons, l'apprentissage de développer un nouveau sport, parce que moi, la course, c'est somme toute assez nouveau dans ma vie, là, tu sais. Je réalise à quel point la natation était arriérée à 1 million de points de vue, là.
Mm-hmm.
Parce que moi, j'ai nagé pendant 20 ans, puis à la fin, j'étais élite, là, tu sais, j'ai été élite pendant 15 ans, de ces 20 ans-là. J'ai jamais entendu parler de lactate. On prenait des fois notre pulsation cardiaque, mais ça marchait moyen, partait dans la piscine, puis là, il fallait que tu sortes, puis là, les pulses descendent. Des fois, on checkait nos pulsations, mais c'était jamais pour s'assurer qu'on dépassait pas un seuil.
Il y en a qui le prennent en natation quand même, lactate.
Ouais, il y en a qui le prennent,
C'est quelque chose qui est fait aussi, mais tu sais, c'est sûr que c'est un environnement qui est plus compliqué, je pense, pour amener ce genre de choses-là.
Ouais.
Là, il faut que tu te prennes à l'oreille, ça, pas pour qu'il y ait du sang dans la piscine. Là.
Ouais, mais mettons les fois où est-ce que j'en ai entendu parler, parce que tu as raison, ça se faisait, c'était pour tester, mettons, OK, après une course, on
la
prend le lactate,
surtout, ouais.
Voir on est où, puis après ça, combien de temps ça prend avant que ça redescende.
Mm-hmm.
Sauf que on m'a jamais parlé qu'une pratique était supposée être easy, fallait que je reste en dessous de quelque chose. Là. J'ai jamais entendu parler de ça. Là. Jamais. Même qu'on était sûrement tout le temps trop à côté là, à cause de ça. Là.
En même temps, je pense qu'en natation, ils font tellement de volume. À un moment donné, je pense que tu t'en fais tellement que tu es sûrement en bas de ton premier seuil pareil parce que tu pourrais peut-être pas supporter l'entraînement si t'en fais. Ben, je sais pas.
Je sais pas, man. Je sais pas parce que des fois, je me rappelle qu'on était surentraînés. Là.
Mm-hmm.
Fallait qu'on fasse des tapers pas possibles pour être correct. Là. Fallait qu'on arrête de nager quasiment pendant 6 semaines avant pour comme être capable d'arriver fresh avec un petit peu d'explosion à nos compétitions, mettons. Là, t'sais. Puis quand j'ai commencé à faire un autre type d'entraînement plus pour du sprint, parce que là, c'était vraiment polarisé, là, tu sais, fait que c'était soit ultra easy ou soit vraiment, vraiment rapide, mais c'est là que j'ai eu les meilleures performances de ma vie, là, tu sais.
Ouais. Mais tu sais, on dit que, tu sais, je ne dirais pas le jugement sur la natation,
non,
si c'est arriéré ou pas, mais tu sais, honnêtement, il y a plein de sports, là, tu sais, qui sont pas non plus, tu sais, à la fin de pointe. Puis là, on le voit, je pense, en triathlon, tu sais, les Norvégiens qui amènent. Tu sais, on dirait qu'on se comporte comme s'ils amenaient la grosse technologie, puis tout, mais au final, ils font juste ça, ils font mesurer du lactate, puis c'est rien de. C'est des choses qu'ils font depuis quand même longtemps, là.
Ouais.
Mais c'est. Je pense qu'ils y croient, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Puis le succès des Norvégiens, je pense, c'est Linus Sanders, c'est le trader canadien qui dit beaucoup, c'est parce qu'ils s'entraînent ensemble tous les deux puis ils se poussent. Mais moi, je vois plus ça comme ils s'entraînent tous les deux ensemble. Puis quand tu vois le champion du monde ou les deux collègues, là, on parle de Blumenfeld puis Gustav Iden, tu sais, que je pense pas tant que c'est qu'ils se poussent, mais c'est qu'ils sont conscients, OK, lui aussi, il fait ça puis ça marche pour lui aussi. Tu sais, c'est de dire, OK, ben, on fait le même type d'entraînement puis on gagne des courses. Puis ça te rassure un peu, je pense, d'avoir quelqu'un qui fait la même chose que toi, mais ça veut pas dire qu'ils se poussent. Je pense que ça veut dire justement qu'ils sont capables de se retenir.
Ouais,
parce
c'est
que
ça.
Des fois, les séances, c'est ça.
Ouais.
Même en course à pied, je pense que les Norvégiens font beaucoup maintenant. pense, du double threshold. Ils font deux séances par jour d'intensité, mais c'est du seuil. Mm-hmm. C'est pas nécessairement ultra dur, puis ils n'arrivent pas au bout de complètement casser. Puis à dernier reps, même si t'en restes, tu te retiens de la kiki. Là, parce que tu veux être capable dans deux jours d'en refaire une bonne. Là,
ça aussi, c'est un autre point important que moi, j'avais pas du tout dans ma conception d'entraînement, mettons, quand je faisais la natation. Puis encore une fois, je parle juste de mon expérience, mm-hmm. je parle pas d'expérience de tous les clubs, là, j'ai aucune idée de ce que le monde faisait là. Mais je sais que c'était le commun usage de tout le temps la dernière rep all out.
Ouais.
Tout le temps. Peu importe c'était quoi le set, peu importe c'était quoi la pratique, quand t'arrives à la dernière répétition, tu races contre le gars à côté de toi, puis t'es à bloc, tu sais. Mm-hmm. Même si depuis le début de la pratique, t'es sur ton pace, tu tiens le pace qu'il faut que tu tiennes, t'es à bonne intensité, les deux ou trois derniers. Là, c'est le dernier, let's go gang, puis là, tu le race, tu sais.
Mm-hmm.
Puis là, j'ai réalisé, hein, quand j'ai commencé à faire la course, parce que là, c'est des intervalles plus longs, parce que c'est pas des 4x50, là, tu sais, c'est des intervalles qui sont comme 1,5 kg, 2 kg, mettons, pour le training de marathon. Puis là, t'arrives au dernier, puis si tu races le dernier, tu t'exploses, man.
Mm-hmm.
C'est pas trop tough, là.
Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est une question de temps, la balance entre les adaptations puis la fatigue, tu sais. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qu'il faut un peu penser. Puis moi, je me dis, un training, oui, c'est le fun de savoir que tu peux faire un effort, mais tu le sais, là.
Ouais.
Tu sais, quand tu finis ta dernière rep, c'était comme, hey, j'aurais pu tellement la kicker, celle-là, tu sais. Puis ça m'arrive de temps en temps aussi, là, tu sais, tu fais un training.
Laisse aller, là,
j'y vais, tu sais. Ou ben, tu y vas pour un segment Strava ou whatever. Ouais. Mais tu sais, des fois, tu peux le faire, mais je pense que tout le temps faire ça, c'est sûr que tu amènes plus de fatigue, puis c'est là que tu as peut-être moins de bénéfices. Puis c'est un peu le principe, je pense, de l'entraînement en général, tu sais.
Mm-hmm.
Faut que tu trouves un peu le bon ratio entre je veux m'adapter, puis je veux performer. Parce qu'en fait, tu sais, un bon entraînement, c'est pas nécessairement un bon test. Puis c'est ça, des fois, que je dis au monde, quand tu fais une séance, c'est bien, sur Strava, là, tes splits sont débiles. Là. Ça, c'est un bon test. T'as montré, OK, que t'es en forme. T'sais. Mais c'est pas nécessairement les séances qui sont des bons tests, c'est pas nécessairement les séances qui sont les meilleures pour les adaptations. T'sais.
Ouais.
Moi, de plus en plus, je fais des séances, des fois où je me dis, comme des 45-15 sur tapis roulant. T'sais. Ben, tu vas pas t'enlever sur ton 45 secondes, puis t'as des récup. Tu peux pas vraiment savoir à la fin si tu es en forme ou pas, mais tu sais parce que tu te compares à d'autres séances. Puis moi, une fois de temps en temps, je fais un test de lactate, puis là, je vois, OK, physiologiquement, ça fonctionne ce que je fais. Puis sais-tu les intervalles, sais-tu la muscu, il y a plein de choses. Puis je pense qu'entre elles, on sous-estime, je pense, des fois, l'impact de la musculation là, sur les performances. Là, moi, je sais que pour moi, c'est le game changer absolu. Là,
ah ouais, hein, puis toi, tu me disais hier que c'était de la musculation en force. Là.
Ouais.
Des grosses reps.
Quand même, là. Comme, tu sais, ce matin, je faisais des step-up. Fait que c'était, je pense, 3 ou 4 reps par jambe avec, tu sais, 200 livres sur les épaules, là, tu sais.
Ouais.
Et après ça, la hauteur du step, c'est... Là, je dis ça, puis ça veut rien dire quand tu sais pas la hauteur du step. Je sais pas non plus c'est quoi, j'ai pas mesuré.
Ouais.
Mais, puis après ça, tu sais, du squat avec un X-bar avec, plus que 300 livres dessus, là, tu sais.
Mm-hmm.
Puis là, c'est des séries de 3. Série 3 avec 2 minutes et demie, 3 minutes de repos.
Fait que c'est je faisais ça pour du 50 mètres crawl. Là,
ouais, mais c'est ça, c'est que l'idée, c'est que tu veux vraiment développer la force, puis pas nécessairement, justement, tu sais, tu veux pas faire de l'endurance en muscu, là. Tu sais, faire des séries de 15 à 20, on fait déjà des... On fait de l'endurance en débile tout le temps.
C'est
là,
ça, parle-moi de ça, de ta perception de ça, que... Je continue ce que tu disais, en fait, je t'ai interrompu puis j'aurais pas dû, là, mais parce que je trouve vraiment ça intéressant ce que tu viens de dire là, que parce que souvent on se dit, hey là, moi je fais de la longue distance, je fais de l'endurance, n'importe quel sport d'endurance, là, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, n'importe quel sport que vous faites, t'as fait déjà ton entraînement en endurance.
C'est ça, puis tu sais, je dis pas que c'est pas bénéfique, puis que des fois en début de programme, c'est le best parce que tu peux arriver à 300 livres direct sur un squat, là, parce que tu vas te péter, là. Mais je pense qu'il faut y aller un peu, tu sais, une progression, mais le but, je pense, de la muscu, c'est vraiment d'y aller en force, puis en, tu sais, recruter le maximum d'effets musculaires. Parce que c'est ça l'idée, c'est que tu vas améliorer la coordination du recrutement d'effets musculaires en faisant des reps en force max, parce que c'est là que tu vas vraiment chercher toutes tes fibres, puis c'est ça la théorie, puis on le voit en fait là, sur, je pense, des ultramarathons, tu sais, quand c'est 80 ou je pense même 70 km et plus, la force musculaire devient presque aussi importante, sinon plus, que ton VO2 max pour prédire la performance, t'sais. Fait qu'à un certain point, là, c'est sûr que sur un VO2 max de 40, même si c'est hyper fort, ça ira pas super bien, là, mais tu sais, on s'entend qu'à un moment donné, ça devient de plus en plus important, puis je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de travailler là-dessus, là. Des fois, le monde dit, ah, mais là, tant qu'à faire 30 minutes pour ça, je vais courir 30 minutes de plus. Ben, tu sais, je pense que c'est pas vrai. Je pense que pour le trail, la muscu, c'est certainement plus important que ton jog de plus dans ta semaine. Là,
mm-hmm.
Puis idéalement, justement, plus en force max, mais ça se fait aussi chez vous avec des élastiques. Là. Selon ton setup, la hauteur du step, tu mets 5 élastiques ensemble par-dessus tes épaules, à un moment donné, c'est tough. Là,
ouais.
Pendant le COVID, là, j'en ai fait des séances chez nous, puis j'en ai pas perdu tant que ça. Je pense que c'est pas optimal, mais tu peux t'en sortir quand même assez bien. Puis après ça, je pense que le gym, moi, j'ai recommencé sérieusement à faire de la muscu en salle peut-être au mois de juin cette année, après le marathon d'Ottawa. Parce que le gros, en affaire, t'sais, je le procrastinais. Là, c'est comme, ah, mais là, j'ai une race, ah, mais là, j'ai une race. Ouais. Puis tu remets. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, fuck off, là, je vais comme y remettre pour vrai. Puis là, je pense que mes derniers tests que j'ai faits, c'était hyper positif. Puis même si j'aime ça croire que c'est mes séances magiques en tapis roulant qui m'aident, je pense que c'est quand même beaucoup plus la muscu dans mon cas. Là.
Mm-hmm. Mais c'est. Moi, en tout cas, il y a comme une balance à trouver parce que aller en muscu, ça prend du temps.
Mm-hmm.
Puis moi je trouve ça personnellement vraiment moins le fun que d'aller jogger mettons avec de quoi dans les oreilles, puis tu sais, puis c'est la balance entre performance versus fun là, mettons, ouais. Sauf qu'en même temps si t'es sérieux à propos de ton entraînement comme tu y penses pour vrai, tu sais,
puis tu sais, je te dirais surtout, tu sais, moi l'été là présentement je fais une séance de muscu par semaine, mm-hmm. Des fois une deuxième, mais la deuxième c'est plus comme mobilité chez nous, c'est rien de sérieux. Fait que c'est une séance sérieuse, 30 à 40 minutes.
C'est pas si long.
Puis je te dirais, tu sais, oui, moi j'aime ça en fait. Fait que moi c'est facile de dire ça, moi j'adore ça, faire de la muscu, ouais. Surtout des séances comme ça. Des fois on aime pas ça parce qu'on a dans la tête des séries de 12, ça brûle puis c'est pas le fun, mais tu veux pas arriver là, tu veux pas que ça brûle puis que ce soit dur, parce que ouais. Là c'est ton système anaérobique que tu développes, puis c'est pas ça que tu veux en trail. Tu veux justement force max. Fait que c'est des trainings de paresseux, là. Tu fais des séries de 3-4, tu te reposes 2-3 minutes, puis même des fois plus. Puis
c'est vraiment... le fun quand même, faire ça.
C'est ça. Ouais. En tout cas, moi, je trouve ça le fun.
Ouais.
Mais tu sais, ça, c'est pas tout le monde qui aime ça aller au gym.
Ouais. Ouais, puis en faisant des reps de 3, t'as pas le temps d'avoir les jambes qui gonflent et qui shake. Là,
c'est ça.
Tu te rends pas là, là.
Exact.
Ouais. Je veux qu'on parle un petit peu de nutrition, parce qu'on s'en est parlé un petit peu hier. Puis. Après ton Québec Mega Trail, t'avais dit que sur Instagram, t'avais dit hey, j'ai réussi à manger 100 grammes de glucides à l'heure.
Mm-hmm.
Puis moi, je me rappelle, mais dit tabarnak, 100 grammes de glucides à l'heure, c'est énorme. On avait Nicolas le Duc Savard qui était assis ici qui disait qu'on n'était pas capable d'ingérer plus que 90. Fait que là, moi, j'avais une dualité dans ces informations-là. Puis hier, je t'ai posé la question, puis tu m'as dit « Ah, il y en a qui disent que... » Quand tu dis « il y en a qui disent que », c'est, mettons, la science est rendue où par rapport à ça, là, de ta compréhension? Là?
En plus, j'ai regardé ça récemment. Là, fait que je te dirais, t'es pour des moyennes, t'es que t'as 10 participants, tu fais une moyenne,
ouais. 120
grammes par heure, ça peut passer pour pas mal de monde quand tu prends les bons ratios, t'sais, glucose, fructose pis tout, mais le record, je pense, dans les publications scientifiques, c'est 144 grammes.
Quelqu'un qui était capable d'ingérer 144 grammes.
Sans avoir de problème, là, digestif, quoi que ce soit. Après, à un certain point, t'absorbes pas non plus 100%.
C'est ça.
Il y en a une partie qui va passer tout droit, puis ouais. T'sais, that's it, là, mais c'est pas à 140 grammes, il paraît que c'est possible, mais en général, je pense que l'espèce de 90 grammes, c'est vrai, des recommandations, même en 2005, je pense, c'était 90 grammes et plus pour un effort de 2h30 et plus.
Mm-hmm.
Puis il n'y a pas personne, on dirait, qui fait ça. Puis tu regardes les produits, ça te marque de prendre un gel aux 45 minutes, t'es comme, mais c'est pas beaucoup ça. T'sais. Oui, c'est vrai que c'est des recommandations pour un effort, je sais pas, entre 1 et 2 heures.
Mais aussi les trucs que tu mets sur un. Là, je le sais parce que j'ai fait faire mes trucs pour Santé Canada. Puis ils t'obligent à mettre des recommandations sur ton sac qui sont des recommandations pour monsieur, madame, tout le monde. Puis la chose qui est la principale qui. Tu sais, moi, sur mon sac de Upica, je suis obligé d'écrire un scoop par jour.
Ouais, OK.
Puis la raison pour laquelle, c'est parce qu'il y a 300 mg de sodium. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde dans la société qui font pas de sport, mettons, ou qui sont très peu actifs, ils peuvent pas, j'ai légalement pas le droit de mettre sur mon sac un scoop à l'heure, tu sais.
Même si tu vas justement suer ben presque 300 mg de sodium par heure.
Sauf que, puis c'est peut-être pour ça que la plupart des recommandations, c'est comme un gel par 45 minutes, parce que probablement qu'ils peuvent pas légalement l'écrire sur le sac.
Puis souvent, le problème, c'est qu'après, si tu prends cette dose-là, qui est la dose recommandée sur le produit, ben c'est même pas assez de glucides pour garder ton système digestif vraiment actif pendant ton ultra.
Ouais.
Ben ça, des fois, que les gens comprennent pas quand tu leur dis, il faudrait que tu prennes genre tes trois gels à l'heure, on va dire 75 grammes de glucides.
On parle d'ultra, mais mettons, n'importe quelle activité en haut de 2h30, dans le fond.
Ouais, c'est ça. Exact. Puis même, tu regardes Kipchoge sur son marathon, je pense, peut-être pas celui qu'il vient de faire, mais la dernière fois, je pense qu'il avait pris 100 grammes à l'heure.
Ouais.
Fait qu'il a pris 200 grammes de glucides sur 2 heures, puis tu sais, ça a bien été. Fait que c'est ça un peu, je pense, ce qu'il faut comprendre, c'est que pas assez, c'est le même problème. Tu as des problèmes digestifs parce que tu as pas assez, ton système digestif, il faut que tu gardes le sang vers les muscles, vers le système digestif, puis vers la peau s'il fait chaud pour suer. Fait qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de glucides dans le système digestif, ton corps fait comme ben fuck off. T'sais.
Je le mettrai pas là, je mettrai pas le sang là.
Puis là, tu n'absorbes plus rien, puis c'est là que tu as des nausées, puis tu n'as vraiment plus le goût de manger. Mais la réalité, c'est que quand tu commences à avoir des nausées, puis tu n'as plus le goût de manger, ben c'est parce que ton système digestif est en train justement de shutdown, si on veut, puis c'est là que tu devrais te forcer à manger quelque chose.
Ouais.
Fait que c'est compliqué de le faire, mais quand tu respectes un plan, ben c'est, ça fonctionne assez bien. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, des fois, le problème. T'sais, même si moi, pour tout ce qui est hydratation, je pense quand même que la plupart des gens peuvent boire plutôt à leur soif, puis c'est quand même assez bien. Puis, quand je dis la plupart des gens, c'est pas vrai pour tout le monde, mais une bonne partie des gens, quand tu te fies à ta soif, c'est assez efficace. Mais la soif, c'est un mécanisme hyper simple qui est basé directement sur l'osmolarité de ton sang. Mais la faim, tu sais, il y a du monde en ultra qui vont dire, je vais aller au feeling, là, mais t'auras jamais faim. Là.
Non, t'auras jamais
faim. Déjà banqué, moi, j'ai déjà banqué, puis j'ai pas eu faim.
Non.
Ni avant, ni après, j'avais tout sauf faim. Fait que c'est ça, t'auras pas faim. Ton cerveau va t'envoyer des signaux, ça va être ralenti, arrête, mais ça sera pas jamais. Ça arrive d'avoir
ça
faim
sera
sur
pas mange.
Ultra, mais c'est assez rare. Là. Souvent, c'est à l'heure des repas. T'as l'habitude de manger à midi, et midi, c'est ton ultra. Ah, ben tiens, j'ai faim.
Ouais.
Puis c'est là que des fois, tu prends une barre solide pour te dire, ben, OK, je mastique un peu, ça fait changement des pâtes de fruits puis des gels. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment important des fois de comprendre que si t'as de la misère à manger un gel à l'heure, ça veut pas dire que 2, ça va être plus dur. En fait, 2, ça devrait être plus facile, puis 3 aussi. Puis là, c'est sûr que rendu à 4 gels et plus, ben là, il faut que tu le pratiques, puis il faut que tu t'entraînes, parce que ton système, tu sais, les transporteurs de fructose, il faut que tu t'habitues à ça. Mais il y a quand même une espèce de sweet spot, là, puis moi, je pense quand même que, disons, entre 50 et 90 grammes à l'heure, je pense que la plupart du monde peuvent consommer ça sans avoir de problème. Là,
ouais. Puis... Mais parce que je regarde, mettons, j'essaie de diviser dans ma tête là, comment je pourrais arriver à 100 grammes à l'heure. Puis c'est quand même 25 grammes aux 15 minutes. Là,
exact.
Puis 25 grammes, c'est que le 15 minutes, je trouve qu'il revient vite. Tu t'en montres là, à faire genre, OK, faut que je m'en rouvre un autre. Là, tu l'ouvres, tu la descends.
Mais c'est là des fois que c'est le fun de combiner liquide et solide ou gel, etc. Ou même des fois d'aller un peu moins, de dire je vais prendre 80 à l'heure, mais je vais aussi manger au ravito un peu.
Ouais.
Puisque je mange au ravito, je ne compte pas dans mon 80 à l'heure.
C'est ça, exact.
Je connais un peu plus avec ça. Mais je pense que le monde qui a vraiment de la misère, c'est un peu des fois de combiner. T'sais, moi, j'aime mieux prendre juste de l'eau pendant les ultras avec des électrolytes, mais pas de calories dans mon eau. Comme ça, je bois ma soif, puis je mange mes gels. Ben, mes pâtes de fruits, en fait. Mais c'est quand même assez facile de dire, si tu sais que tu vas boire au moins une bouteille de 500 à l'heure, ben, tu peux y aller avec des calories là-dedans, plus un certain nombre de gels. Fait que là, ça te fait, mettons, on va dire un gel aux 25 minutes, qui te fait un 60 grammes à l'heure, plus une bouteille de 500 ml à l'heure pour combiner. Puis tu fais un peu des mix comme ça. Mais je pense que c'est important, surtout d'avoir une idée de ce qu'on a mangé. Parce que le pire, quand quelqu'un a une mauvaise perf, en tant que coach, c'est quand il demande t'as mangé quoi, puis il peut pas t'arriver avec des affaires précises.
Il sait pas exactement.
Il dit pas qu'il faut qu'il sache exactement j'ai mangé 300 grammes de patates au premier ravito. Mais d'avoir au moins une idée, parce qu'après, si tu veux corriger, parce que des fois, les symptômes de j'ai pas mangé assez, puis j'ai trop mangé sont souvent les mêmes. Puis honnêtement, c'est rare que le monde mange trop. C'est pas évident. Que moi, j'ai déjà testé avec du 100, 120, puis souvent, là, ce que je me rends compte, c'est que je peux pas commencer une race à 120, t'sais. Mais je peux commencer une race à 100 grammes à l'heure, puis je peux hopper.
Augmenter,
si je me sens bien, je peux hopper au besoin, puis si je me sens vraiment que c'est trop, là, je peux... En fait, c'est quand même rare que ça fonctionne bien de skipper un gel, là, t'sais.
Souvent,
le best, c'est de prendre la moitié quand même pour au moins garder un peu une stimulation, là, t'sais.
Parce que, admettons que je parlais avec Elliot Cardin, qui était ici, lui, il dit qu'il prenait juste une page de purée de patates à l'heure plus sa nutrition liquide. Qu'est-ce qui arrive quand, mettons, parce que dans sa page, j'imagine qu'il y a entre 30 et 40 grammes de glucides, mettons. Si tu les prends one shot, est-ce qu'ils sont digérés one shot ou est-ce qu'ils sont digérés pendant une heure?
Ben, c'est ça qui est dur à déterminer, en fait. Mais ça dépend vraiment du type de glucides. Puis je pense que dans le cas d'une purée comme ça, il y a quand même des glucides complexes. Puis je sais pas si mettre du sirop d'érable en plus dedans, là, mais tu sais, il y a quand même des glucides complexes. Fait que je pense que ça se peut que ça s'étale sur plus longtemps. Mais je trouve toujours que c'est plus risqué un peu de faire ça. C'est comme manger beaucoup à chaque ravito. Ben oui, si t'es capable de le digérer sur longtemps, après, ça peut fonctionner. Mais je trouve tant que c'est un risque parce que tu peux justement... en avoir trop d'un coup. Puis là,
tu
ça,
serais mieux de prendre, mettons, la moitié de ton parch. Mais peut-être qu'Eliott fait ça aussi, je ne sais pas. Là, ouais. Mais de prendre la moitié de ton parch à chaque 30 minutes, mettons.
Mais dans son cas, si tu dis qu'en plus, il boit du liquide, en des ouais. calories liquides, il peut prendre son parch d'un coup puis rentrer un peu de calories en. Puis tu sais, tout est possible. C'est juste que d'avoir une fréquence élevée de consommation de glucides, t'sais, dans mon expérience avec mes athlètes, pis tout, c'est quand même ça qui est le plus safe. Puis je pense aussi qu'ils montrent même, il y a peut-être des études là-dessus, là, de dire que t'es mieux de prendre t'es aux 20 minutes qu'aux 40 minutes là, t'sais, pour les mêmes quantités. Ouais. Je pense que c'est assez ben, assez démontré. Faudrait que je vérifie. Là, mais il me semble que c'est quelque chose qui a déjà été vérifié. Là.
Ouais. Question pour toi. Mon. Puis j'en ai parlé. Je sais pas si ça va être le prochain épisode qui va sortir ou quoi que ce soit, mais mon expérience au Arikana. A été vraiment difficile. J'arrêtais, comme je disais tantôt, à 61 kilos, les jambes crampées complètement.
Mm-hmm.
Comme j'ai jamais vu ça. J'avais déjà fait un 60 kilos avant. Aucun signe de crampe. Mm-hmm. Moi, je l'attribuais au fait que j'ai sué en innocent puis que j'ai perdu vraiment beaucoup de liquide. Ce que je me suis rendu compte après, des gens qui m'ont envoyé des études, des articles, ce que tu me disais hier, c'est que il y a pas vraiment de lien de causalité entre la déshydratation, le manque d'électrolytes puis les crampes musculaires. Pourtant, je pense que j'avais fait vraiment un bon travail d'entraînement pour me préparer à cette épreuve-là. Qu'est-ce qui aurait pu se passer d'après toi?
Mais tu sais, il n'y a pas de lien nécessairement direct, mais en même temps, tu sais, les crampes musculaires, c'est de la fatigue. C'est de la fatigue neuromusculaire. Puis là, c'est sûr que si tu es déshydraté, ça peut avoir un impact là-dessus. Là. Fait qu'il ne faut pas dire non plus qu'il y a aucun. Que le fait d'être déshydraté n'a aucun rôle là-dessus. Il peut quand même y avoir un rôle, mais c'est plus. Tu sais, via, disons, ça augmente ta fatigue, mettons, par rapport à un événement où tu aurais été moins déshydraté.
Mm-hmm.
Après, tu sais, une des questions, moi, tu sais, que j'aurais pour toi. Quand ça arrive, ce genre de choses-là, déjà, c'est, tu sais, est-ce que tu avais soif, tu sais? Parce que des fois, oui, si tu es vraiment déshydraté et tu as vraiment, vraiment soif, là, c'est clair que tu aurais dû boire plus, tu sais.
Ouais.
Après, si tu avais quand même pas trop soif, tu sais, c'est peut-être pas nécessairement.
Ben, j'avais vraiment soif.
Ok, ouais.
Fait qu'à un moment donné, je l'ai dit, je pense, dans le podcast, parce que je reviens sur le. Il y avait comme une section qui durait 2h40, là, entre deux ravitaux. Puis j'avais 2500 ml, puis il faisait fucking chaud, man. Puis. Pendant 40 minutes à la fin, j'avais plus d'eau, tu sais.
Ouais.
Puis là, j'avais soif, man. Mm-hmm. Là, ça se pouvait pas comment j'avais soif. Genre, j'aurais bu dans une rivière, là, ouais. Tu sais. Puis j'avais pas
de filtre.
Ouais, c'est passer, ça. Ouais. Ouais. Fait que oui, j'avais soif. Fait que peut-être que c'est ça.
Ça peut avoir joué un rôle, mais après, ton 17% de temps en zone 4...
Tu penses que ça a joué un rôle aussi, hein? Ouais.
Comme je dis que c'est plus la fatigue musculaire, tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être plus ça.
Mm-hmm.
Puis aussi, si t'aurais pas passé ce 17% de temps-là dans ta zone 4, peut-être bien que t'aurais été aussi... T'aurais eu su un peu moins.
Mm-hmm.
Fait que t'aurais perdu un peu moins d'eau. Fait que, tu sais, tout joue ensemble un peu, là. Mais au final, c'est clairement... plus de la fatigue, je pense, musculaire. Puis là, encore une fois, l'alimentation, tu sais, le fait de manger plus, ça peut aussi aider pour ça, là, tu sais.
Mm-hmm.
C'est d'essayer de garder le système en un certain état d'équilibre, là, puis de ne pas avoir trop de stress. Tu sais. Fait que c'est pas clair, là, c'est quoi vraiment la cause exacte des crampes, mais c'est quand même beaucoup plus, je pense, c'était neuromusculaire qu'autre chose. Puis je pense que la définition que moi j'aime, là, c'est, je pense, c'est Hemingway dans The Old Man and the Sea, un roman classique de littérature américaine. Ouais. Je pense qu'il dit que les crampes, c'est une traîtrise du corps humain.
Ouais.
Moi, j'adore ça. C'est comme ton corps qui est comme, OK, là, on n'est plus capable.
Ouais.
Check bien ça, mon gars, une bonne crampe de mollet, on va voir si t'arrêtes ou pas, là, tu sais.
Ouais, parce qu'une crampe de mollet, tu sais, mettons, moi, honnêtement, c'est ça que je disais dans le podcast sur mon expérience sur Arikana, je me disais, il y a le monde qui ont un mental de feu, mais courir avec des jambes crampées, tu peux pas courir, tu peux pas continuer, tu sais, c'est comme, j'aurais pu marcher sûrement, mais tu peux pas continuer à courir là-dessus, man, tu vas te déchirer les cuisses, là, tu sais.
Ouais.
C'est quand même rough, là.
C'est ça. Puis des fois, c'est ça qu'on peut se dire. C'est carrément une façon de ton corps d'envoyer un signal que ça marche plus, là, ça va trop vite, puis on n'est pas prêt pour ça. Puis souvent, après, je pense, l'effet qu'on associe beaucoup les électrolytes, par exemple, à la prévention des crampes, c'est que tu crampes sur la première course de l'année, puis là, tu te dis, ah, ben, prochaine fois, je vais prendre des électrolytes. Puis la prochaine fois, tu crampes pas, mais c'est pas les électrolytes, là, c'est le fait que tu t'es adapté. Ouais. T'es juste le premier épisode de crampe, ben c'est un gros stress musculaire là.
Ouais.
Fait que juste de ça, on va dire deux semaines après, t'es sûrement vraiment adapté. Puis dans le même événement, t'aurais pas les crampes de la même façon là.
Ouais.
électrolytes ou pas, là. Mm-hmm. Puis je dis pas que c'est pas bon les électrolytes, là, c'est juste que, tu sais, moi, en tant que, tu sais, moi, ma spécialité, c'est vraiment l'hydratation. Puis j'ai quand même l'impression qu'on accorde beaucoup trop d'importance, en général, là, les coureurs, à tout ce qui est hydratation, électrolytes, par rapport aux calories, tu sais, aux glucides, mm-hmm. là. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est ça, tu te rends compte. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens que, tu sais, ils passeraient pas, ils n'iraient pas courir une heure sans leur bouteille d'eau, des fois,
ouais.
mais ils vont aller courir 2h30 avec deux gels, là, tu sais.
Ouais, ouais, c'est
fait
ça.
Que je pense qu'il y a quand même, des fois, l'importance qu'on accorde à ça est peut-être un peu démesurée par rapport à l'importance justement de la dépense énergétique. Puis des fois, le truc qui est bon, je pense, à dire au monde, c'est on dépense environ une calorie par kilogramme de poids corporel par kilomètre.
Ouais.
Puis ça fait beaucoup, là.
Ça fait énormément.
T'es moi à 70 kilos, là, le poids moyen là, d'un homme, je pense, ça fait quand même 70 calories par kilomètre. Fait que ça fait 700 calories si tu fais 10 kilomètres.
Mm-hmm.
Puis l'entre elles, ben, tu peux considérer que c'est environ 100 mètres de déplus, ça correspond à un kilomètre. Tu peux faire le calcul, puis c'est une quantité de calories, tu sais, qui est énorme, tu sais. Puis oui, il y a une partie de ça qui peut venir du gras, tes réserves de gras, puis de tes 2000-ish calories là, de glycogène, mais le reste, il faut que tu le bouffes.
Faut que tu le manges, c'est ça.
C'est ça, là.
Ouais. Ouais. C'est quand même intense quand tu le vois de même, là, tu sais. Ouais. Puis quand tu parles de l'importance ou la over-importance qu'on met à l'hydratation, mettons, puis aux électrolytes, là, mais il arrive quand même un moment dans une course, mettons, d'ultra distance, là, que le déficit devient bien trop grand. Là. Mettons, tu sais, parce qu'à un moment, il y a une limite à ce que tu peux être déshydraté en termes de. Tu sais, mettons que tu sues, man, je sais pas combien que tu peux suer à l'heure, là, mais mettons que tu sues plus que tu ingères sur le long terme, à un moment, t'es baisé.
Oui, on a quand même des réserves de sodium qui peuvent quand même t'offrir un certain bout. Là. Je sais que mon projet de doctorat, c'était 5h30 de vélo. Puis on donnait pas des quantités énormes là, de sodium. Puis au final, tu sais, c'était.
Il était correct encore.
Il était quand même correct, là, c'est ça. Mais c'est sûr que sur un ultra de 24 heures, ben, tu sais, ça va prendre du sel. Mais encore une fois, comme l'hydratation, tu sais, l'espèce d'envie de manger salé, c'est quand même quelque chose qui est assez bien régulé aussi. Là. C'est assez simple. Encore une fois, c'est l'osmolarité dans le sang. Tu sais, fait que si t'arrives au ravito et t'as vraiment le goût de les manger, les chips. Ben, peut-être que tu peux manger, c'est peut-être le temps de prendre des électrolytes.
Ouais.
C'est pas qu'il faut manger les peanuts et les chips. En même temps, ça dépend. T'sais, encore une fois, t'sais, c'est un peu, ça passe. Moi, j'aime bien mettons, les Lay's cuits au four, là,
ouais.
qui sont moins grasses un peu. Fait que c'est quand même de la bouffe d'ultra qui fait du sens. Là.
Ouais.
Mais des fois, ou les patates salées, ou ben, des boules de riz, des trucs comme ça. Mais tu sais, si t'as vraiment envie de manger salé, c'est un bon signe que t'as peut-être besoin de sel. Mais t'as pas besoin non plus d'en bouffer plein. Puis t'es des fois l'espèce de lien qu'on fait entre ah, ben, j'ai des cernes de sel sur moi, je suis salé, faut que je mange plus salé. Mais en même temps, des fois, c'est parce que tu manges salé que tu suis salé. Il y a quand même un lien démontré à ça. T'sais, si tu manges plus de sel, tu vas suer plus de sel. Fait que tu vas en avoir besoin de plus. Puis c'est pas nécessairement un problème parce qu'on a accès à du sel pendant les ultras. Puis tu peux en prendre en masse. Puis ben, en prendre trop, c'est moins que c'est possible. Comme tout. Là, mais
faut que tu en manges en tabarnak pour que tu en prennes trop. Là. Ouais.
Exact.
Ouais. C'est tellement intéressant. Tous ces curseurs-là, mettons, là, quand tu te mets à vraiment y réfléchir. Puis à y penser. Là. C'est quoi les prochaines études que toi tu checkes, là, que t'as comme que tu commences à t'intéresser là, tu sais, pour la performance puis ces choses-là? Là.
Ben t'sais, moi pour mon projet de doctorat, il y a quand même encore un article que j'aimerais écrire sur vraiment, tu sais, le. Parce qu'en fait, on a fait un 5 heures de vélo suivi d'un 20 km contre la montre.
Okay.
Puis en fait, je pense qu'Antoine Antoine Jolicoeur a participé puis il l'a dit publiquement à ton podcast. Fait que je pense qu'on peut, on peut révéler, je pense, que
participer à ça. Okay, ben,
normalement, parfait, les participants sont...
sont anonymes.
C'est ça, ouais. Mais puis c'est ça, dans le fond, là, on a beaucoup de données aussi sur tes physiologiques. Moi, j'aimerais écrire un article sur un peu c'est quoi les facteurs qui font que quelqu'un est meilleur qu'un autre pour le 20 km TT à la fin d'un 5 heures de vélo, c'est-tu parce qu'il y a une moins grosse dérive cardiaque? C'est-tu parce qu'il a sué moins salé? C'est-tu parce qu'il a brûlé moins de glucides? T'sais, c'est quoi les facteurs qui affectent la performance d'un athlète à la fin de ça? T'sais, par rapport à ce qu'il aurait dû théoriquement faire, mettons, frais, t'sais.
Ouais.
Fait que c'est un peu ça l'idée de l'article que je veux écrire, là.
Ouais.
Puis là, je perds un peu trop de mon temps à lire des trucs là-dessus puis essayer d'écrire ça alors que je devrais remettre d'autres choses pour mon doc pour que ça avance. Mais,
ouais, mais ça, c'est la vie, là.
C'est ça, des fois, ce qu'il faut que tu fasses, t'as pas le goût de le faire, mais ce que t'as le goût de faire, ben t'es bien motivé.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que moi, c'est un peu ça pour mon doc là, sur lequel je travaille. Là.
Ouais.
Puis après, t'es tout ce qui est à l'institut, on a des projets vraiment intéressants, mais c'est beaucoup moins ultra-endurance. Là.
Ouais.
On est beaucoup plus sur des sports plus olympiques là, qui sont généralement plus courts, cool, à part peut-être le vélo, là, mais ouais.
Ouais. Puis À part les facteurs physiologiques, toi, tu t'intéresses aussi à l'équipement. Tu me parlais hier de tes souliers, puis du fait que tu pèses tes souliers, puis tu checkes vraiment ça. À quel point ça joue un gros rôle dans ta sélection d'équipement, mettons, toutes ces affaires-là? Le poids, puis tout.
Ben ça, c'est surtout, je pense, une fois que tu as fait l'UTMB une fois, puis que tu as vu la liste de matériel, puis que si tu peux sauver 30 grammes sur chaque item, ben, au final, tu as sauvé 300 grammes. Là.
Ouais.
Ou même peut-être plus que ça, là. Ouais. C'est quand même des grosses différences. Puis après, les chaussures, on sait que c'est, je pense, c'est, si je me trompe pas, c'est 1% d'économie par 100 grammes par pied, t'sais. Fait que dans le fond, si mon soulier pèse 240 grammes, puis c'est ça, je pense, les Adidas que j'utilise en Ultra, ben versus un soulier à 270, qui serait 30 grammes de plus, ben c'est 0.3% d'économie de course.
Mm-hmm.
Puis ça peut se traduire par, mettons, 0.2% de performance, t'sais.
Ouais.
0.2% sur un Ultra de 20 heures, ben je sais pas combien de temps que c'est, mais c'est quand même...
C'est considérable, c'est quelque chose, quand même, t'sais.
Ouais. Fait qu'après, je dis pas qu'il faut le plus léger possible, mais je pense qu'il faut le plus léger qui répond à ton besoin, t'sais. Ouais. Fait que selon le niveau d'adaptation de tes pieds, je dis pas qu'il faut courir nu-pied, là, t'sais, maintenant, il y a comme un minimum qui te permet d'aller de maximiser ta performance, puis c'est peut-être ce poids-là qu'il faut que t'ailles chercher. T'sais, moi, je coupe mes lacets, je fais pas un double nœud, là, je fais un nœud simple, puis je coupe ce qui dépasse. Là,
ouais.
Même si ça va être un gramme, peut-être. T'sais.
Des fois, même,
mettons les détails, je pense qu'il plogue sur son marathon, je serais curieux de voir si. Tu sais, souvent, qu'il fait ses lacets, puis il laisse. Moi, je les couperais, là. Tu pars pour courir 2 heures sur le marathon, là. Ces souliers-là, tu peux les jeter et après, on s'en fout. Là, mm-hmm. t'es le budget qu'ils ont. Là. Fait que fais tes lacets, un bon nœud, puis coupe ce qui dépasse. Là. T'es, vas-y, genre ultra, ultra light. Là, t'sais.
Mais tu sais, quand il avait fait le sub 2, là,
mm-hmm.
où est-ce que toi, t'as sûrement suivi ça ouais. quand même avec intérêt. Là. Ils ont quand même mis tous les aspects, toutes ces virgules-là, mettons, là, ils ont pas mal mis.
Mm-hmm.
Mais est-ce que tu penses qu'ils auraient pu en mettre plus?
Ah non, là, je pense que t'es quand même pas... Après, des fois, c'est les vêtements, là, je pense qu'il est déjà en porte... Il aurait un crop top, je pense que ça l'aiderait, là, pour vrai, là.
Ouais, ben, sûrement, t'sais, parce qu'il...
Il a son singlet long, puis il le met en dehors de ses têtes, là, comme, ouais. Man, déjà, le swag... Moi, en tout cas, la police du swag aurait pu, genre... La fashion police aurait pu l'arrêter.
Mais est-ce que tu penses que... courir... Là, c'est sûr que c'était Ineos, là, fait qu'il fallait mm-hmm. montrer les sponsors, là, mais courir en chest, y aurait-tu été... Parce que ça a des...
En vélo, on sait que le tissu est plus aérodynamique que la peau.
Tissu des sautes de vélo.
Ouais, c'est ça. Fait que le direct est sûrement mieux avec un singlet assez tight. Comme par exemple, là, je fais les championnats du monde de trail, puis là, j'ai mon singlet Canada.
Mm-hmm.
Puis j'ai pris un small, comme d'habitude, il est vraiment tight.
Ah ouais, hein?
Mais comme, je pense que c'est ça le principe. Là. Ils veulent que les athlètes, tu sais, les sprinters, ils vont pas mettre du linge...
Non.
Ils sont devant mettre des singlets pareils, ben on va leur faire des linges vraiment tight, puis... Ils vont mettre ce qu'on leur donne, puis ils vont être aéros.
Ça va pas te chauffer les nipples?
Ben, au contraire, quand c'est tight, il y a plus de mouvement, là.
Ah ouais, OK, pas pantoute, ouais.
Fait que ça, c'est quand même, à mon avis, un peu meilleur, là. Mais...
Ouais, parce que ça, c'est un enjeu, hein. Moi, au début, c'était vraiment problématique. Là, je courais avec des gilets comme j'ai là, tu sais.
Ouais.
C'était pas... Comme je disais, là, tu sais, depuis que j'ai commencé à courir, je me suis vraiment amélioré sur comme plein d'affaires, là. Puis au début, c'était juste des gilets de même. Puis là, j'arrivais de ma course, man, puis je saignais des nips, là, ouais. Jusqu'à... Ah, man, ça, c'est...
Ça prend du tape, on apprend ça assez vite.
Ouais. Ouais. Du tape, t'en mets-tu encore ou non, là?
Ça dépend ce que je porte, là, mais généralement, t'es un top vraiment moulant. T'as pas besoin, non, généralement, mettre
ouais.
de tape, là.
Ouais. Ouais.
Puis après, c'est une question aussi, le chafing, je pense, de pilosité, là, mais ça... Je sais pas si on a goût de parler de ça.
Les gens qui nous écoutent, qui voudraient avoir recours à tes services là, pour venir soit faire un test, soit du coaching, soit où est-ce qu'ils te trouvent, qu'est-ce qu'ils font, as-tu de la place, tu prends-tu encore des gens, qu'est-ce que...
Ben pour les tests, ça je peux en prendre là, parce que c'est quand même facile, c'est plus ponctuel. Là. Pour ouais. le coaching, là, je suis pas mal...
T'es loadé.
Ouais, j'ai pas trop envie d'en prendre plus que ça. Là. C'est ouais. le fun de coaching, mais en même temps, t'sais, moi c'est surtout une question qu'en faisant des tests de lactate, j'ai l'impression comme ce que t'as fait hier, en une heure... Je te partage beaucoup d'infos utiles pour ta pratique sportive. Peut-être plus que si tu prennes... Pas plus, mais tu sais, je pense que c'est plus bénéfique ça que de prendre des mois de coaching, là, tu sais.
Ouais.
J'aime vraiment mieux faire ça. Puis tu sais, ça, je peux encore en prendre, là. Mon horaire n'est pas hyper flexible, là, fait que je suis un peu piqué là-dessus. Mais tu sais, il y a d'autres mondes qui en font aussi, là. Puis ça, j'aimerais ça éventuellement essayer d'un peu de... pas développer un réseau nécessairement, mais pouvoir recommander des gens, t'sais, aller voir. Mm-hmm. Je sais qu'il y a Vincent Auger à Sherbrooke, c'est parti, une clinique. Puis, tu sais, je pense qu'il pourrait être quelqu'un de compétent pour ça. Mais là, je dis ça, puis tu vas peut-être un peu voir c'est, quelle méthode il prend pour aller seul, puis tout, avant d'envoyer du monde là-bas, tu sais. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui en font, puis tu es à Québec, je sais pas, mais il y a sûrement quelqu'un qui fait des tests de l'athlète à Québec, tu sais.
Ouais,
je pense que ce serait intéressant, mais moi, je prends quand même des athlètes, puis le best, c'est Instagram, c'est une bonne place. Puis sinon, mon site, là, quantumendurance.com. Plein de trucs intéressants là-dessus, plein de bons tips de training puis tout là, puis je pense que c'est les deux spots là.
Très cool. Puis là, tu vas faire Bromont Ultra 55 dans une semaine.
Ouais.
Puis après ça, les championnats du monde en Thaïlande.
Ouais.
Avec mon ami JP. Qu'est-ce que tu essayes au Bromont Ultra de nouvelles techniques? T'essayes-tu quelque chose de nouveau ou non? Comment tu l'abordes, puis comment tu abordes le Thaïlande, c'est quoi, 50 kilos?
80. Ouais. Fait que là, Bromont, c'est vraiment des allées. L'an passé, je l'avais bien géré au pace, tes pace équivalent plat plutôt. Là.
Ouais.
Là, cette année, je vais vraiment y aller plus fréquence cardiaque, un peu comme j'avais fait à Québec Mega Trail. Puis tu sais, je vais vraiment tester pas mal de gear. Peut-être pas. Je vais pas courir en kit Canada, là, mais
genre
la veste. Parce que là, en Thaïlande, je pensais quand même avoir une veste d'hydratation. Mm-hmm. Moi, j'aime bien le fanny pack avec la bouteille dans les shorts, là, mais ça, pour Thaïlande, vu que c'est quand même, je pense, assez chaud, je vais y aller avec une veste. Fait que pour Bromont aussi, j'y vais en mode deux bouteilles comme tout le monde. Là.
La Salomon Sunset ou
non, la Adidas T-Rex.
Okay.
Ouais. Puis j'ai couru à date une fois avec, fait que je fais pas mes devoirs. Mais normalement, je vais la tester une couple de fois, peut-être en fin de semaine. Puis le plan, c'est d'y aller vraiment matériel pour la Thaïlande. Fait que ça va être, je pense qu'on va faire fret, par exemple. Fait que ce sera pas un bon test. Mais en même temps, ça va être vraiment de voir, tu sais, est-ce que les zones d'entraînement que j'ai déterminées, qu'est-ce qui est réaliste, là?
Mm-hmm.
Parce que si je le race, parce que c'est ça aussi, je sais pas encore si je le race, c'était parfaitement à bloc, ou si je me dis, ben, je fais peut-être plus un pace 80 kilos pour finir en me disant, OK, j'aurais pu toffer encore quelques heures à ce pace-là. Ça va dépendre aussi qui est là, tu sais, parce que je dis pas que je vais absolument gagner, mais tu sais, des fois, quand que.
Tu veux racer, là.
C'est ça, le but c'est quand même de racer, puis c'est pas de faire un training, là, tu sais. Parce qu'en fait, si c'est un training, j'irai en zone 2, puis ça serait vraiment pas vite, là, tu sais.
Ouais.
Ça, des fois, les gens ne se rendent pas compte, là, mais tu sais, je pense que Québec Mega Trail, ça m'a pris 5h10. Gloguer ça, ça me prendrait au moins 7h. Là.
Ouais, c'est t'sais, ça.
C'est ça l'affaire. Une long run puis une race, c'est très différent. Puis il y a beaucoup de monde, je pense que pour eux, ça revient au même. Fait que si ça revient au même, ben, soit que tu glogues trop vite ou tu manges pas assez dans tes races, mais il y a comme un petit quelque chose à améliorer. Là,
ouais, c'est clair. Cool, man, on check ça.
Yes.
Merci beaucoup d'être passé. Puis moi, j'ai l'impression que tu vas être un invité qui va revenir au Ipica podcast.
Ça serait cool, ça. Yes. All right.
Prochaine fois quand je refais mes tests.
Ça serait bon, ça, au printemps, peut-être, là.
Ouais. Yes, merci, man.
Ça fait plaisir.